BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Pierre-Jérôme Hémin, merci encore une fois d'être avec nous. Ancien conseiller Michel Barnier, vous avez été longtemps à Bruxelles et vous êtes venu souvent ici nous décrypter un peu ce qui se passe. La question qu'on peut se poser, c'est que pour l'instant, en fait, ça change rien. Il y a de l'émotion, certes, il y a de l'émotion presque plus du côté européen, avec l'adieu à Bruxelles, hein, l'adieu même à Strasbourg. Mais finalement, pour l'instant, ça ne change pas grand-chose.
Alors, il y a deux, pour répondre précisément à la question, qu'est-ce que ça va changer? Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une période qui va de maintenant jusqu'au 31 décembre de cette année où, en effet, rien ne va changer. Dans les faits, pour les Européens, tout sera pareil. Les députés britanniques, cependant, quittent Bruxelles. Il y a 73 députés européens qui s'en vont. Il n'y a plus de commissaire britannique déjà depuis quelques temps. Et puis, à la table du Conseil, où siègent les ministres, les chefs d'État ou de gouvernement, eh bien, pour la première fois depuis le début de la construction européenne, il y aura une chaise en moins. On passe donc définitivement de 28 à 27.
Oui, il y a 66 millions d'habitants en moins aussi.
66 millions d'habitants en moins, 15% du PIB européen, un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, une puissance nucléaire. En fait, on perd beaucoup de choses et beaucoup plus de choses qu'on ne veut le dire. Ensuite, après le 31 décembre de cette année, normalement, là, les choses vont changer, mais on ne sait pas encore de quelle manière, dans quelle mesure elles vont changer. Ça va faire l'objet de négociations qui vont commencer au début du mois de mars pour s'interrompre vraisemblablement à la mi-octobre. C'est-à-dire un temps assez court, 7 à 8 mois de négociations pour reconstruire une nouvelle relation avec le Royaume-Uni. On vient de divorcer, maintenant il s'agit de se paxer.
Oui, sauf qu'en général, quand on divorce, on négocie avant. Donc là, on n'a rien négocié.
Il y a une négociation qui a donné lieu à un accord, qui fait 600 pages, qui fixe les termes de ce divorce, qui est accompagné de ce qu'on appelle la déclaration politique, 30 pages qui disent, OK, on vient de divorcer, on est toujours l'un en face de l'autre, on va toujours échanger, faire du commerce, donc faisons les choses aussi bien que possible à l'avenir. Et cette déclaration politique qui a été votée donne les grandes lignes de ce que devrait être la relation future, dont les détails vont être négociés maintenant.
Oui, on va revenir là-dessus, mais vous avez dit quelque chose d'important qu'on ne souligne pas assez, c'est qu'effectivement, l'Europe perd un siège au Conseil de sécurité.
Absolument. La France va devenir la représentante européenne au Conseil de sécurité. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on perd beaucoup de choses, en fait. Et c'est un échec collectif, je pense, qu'il faut assumer maintenant. On le regrette, mais on respecte cette décision des Britanniques. Mais il faut en tirer les leçons. Il faut tirer les leçons de ce qui s'est passé au mois de juin 2016. Pourquoi est-ce que les Britanniques ont voté pour le Brexit? Il y a une sorte de crise sociale, il y a des régions pauvres, il y a une peur de l'immigration, donc une remise en cause du principe fondamental européen de liberté de circulation. Et puis à l'autre bout, dans les gens qui ont voté pour, vous avez une classe d'entrepreneurs britanniques, dont certains sont assez célèbres, ultra-libéraux, et qui ont beaucoup, beaucoup poussé et donné d'argent pour que le Brexit puisse passer. On va voir ce qui va se passer. Les négociations vont reprendre au début du mois de mars. Là, ce qui se passe, c'est que le 3 février, la Commission va dire « Voilà comment je vois les choses pour l'avenir ». Ça va être mis sur la table du Conseil des chefs d'État ou de gouvernement qui vont rendre une décision à la fin du mois de février pour dire « Ok, on est d'accord ou on n'est pas d'accord sur cette façon de voir les choses ». Pour commencer et permettre à la Commission, de, sous la houlette de Michel Barnier, de commencer des négociations de PAX ou d'accords de libre-échange à partir du début du mois de mars et qui, une nouvelle fois, qui devrait s'achever autour de la mi-octobre, qui est le temps imparti. La Commission dit « ce temps est beaucoup trop court ». Juste pour vous donner une idée, quand la Commission a négocié un accord commercial avec le Canada, ça a pris 7 ans. On ne voit pas très bien comment, en l'espace de 7 à 8 mois, on pourrait reconstruire complètement une relation commerciale, notamment avec le Royaume-Uni.
Oui, surtout commerciale. Ce matin, je recevais un peu le monsieur Brexit Finance pour la France, Christian Noyer, l'ancien gouverneur de la Banque de France. Il disait finalement, les services financiers, il ne se passe rien. Enfin, c'est-à-dire, soit vous êtes dans le marché unique, soit vous n'êtes pas. Donc, comme ils ne vont pas l'être, donc finalement, les négociations vont être assez carrées.
Ce qui se passe, c'est que les gens commencent à se rendre compte qu'on va manquer de temps pour tout négocier. Je vous rappelle que l'Union européenne, c'est 600 accords de tout type. Ça va de la régulation aérienne aux conventions en matière judiciaire, par exemple. Donc 40 accords commerciaux que l'Union européenne a négociés au nom des États membres et donc aussi au nom du Royaume-Uni. Donc si le Royaume-Uni veut se retrouver dans des accords avec ces 40 pays, il doit lui aussi renégocier. Mais ce qui va se passer, et on commence à le voir, et notamment dans la presse, on est dans une négociation avec chacun qui sort ses cartes, qui sort ses atouts. Boris Johnson n'est pas né à la dernière pluie et il agite déjà des leviers comme une relation de proximité avec les États-Unis. Il se targue d'une grande proximité avec Trump et de la capacité.
Oui, ce qu'on disait hier, c'est que Mike Pompeo, du reste, était hier.
Oui,
absolument.
Voilà.
À Londres, pas pour rien.
Pour négocier une nouvelle relation commerciale. On voit qu'il commence aussi à agiter le spectre pêcheur.
On
sait que la pêche est extrêmement importante pour les pêcheurs français.
Et on s'appelle le patron des pêcheurs ici. Même.
Exactement. Et le Parlement britannique a passé il y a quelques jours le Fisheries Bill qui dit il n'y a plus d'automaticité d'ouverture de nos eaux aux pêcheurs étrangers. Donc on connaît l'importance qu'ont les eaux britanniques pour les pêcheurs français. Et il y a cette question des services financiers. Parce qu'en quittant l'Union européenne, les opérateurs financiers qui sont à Londres ne peuvent plus bénéficier de ce qu'on appelle le passeport européen, c'est-à-dire la capacité qu'ils ont de travailler sur l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc ce sera un levier de négociation dans une négociation qui s'annonce extrêmement ardue.
Le mandat de négociation, il est important quand même. Parce qu'on sait que la force de Michel Barnier, que vous connaissez bien, a été justement de maintenir cette cohésion européenne. Là, ça va peut-être être un plus compliqué parce qu'on rentre dans le business, là, et donc
absolument.
C'est autre chose.
Alors, une nouvelle fois, ce mandat va lui être accordé à la fin du mois de février, dans le détail par les chefs d'État ou de gouvernement, et il va pouvoir commencer à rentrer dans le dur avec ses équipes, un peu plus d'une soixantaine de personnes.
Il aura un mandat extrêmement précis.
Oui, il va avoir un mandat extrêmement précis où il y aura des lignes rouges, par exemple, la préservation du marché unique, qui est une ligne rouge absolument infranchissable, l'unité des 27, et évidemment, Boris Johnson va essayer de creuser des failles dans cette unité. Je vous donne juste un exemple, le fait d'utiliser l'argument pêcheur, on pourrait peut-être fermer ou restreindre l'accès à nos eaux pour les pêcheurs, rend cette question extrêmement épineuse en France, et donc extrêmement sensible, et le gouvernement se doit d'être sensible à la situation des pêcheurs. Ils font la même chose pour les automobiles.
Oui, en même temps, le patron des pêcheurs, hier, que je recevais, là, Hubert Carré, il nous expliquait, l'argument que j'ai ressorti aussi ce matin, il disait, mais attendez, 75% de la vente des poissons britanniques, ils sont vendus en Europe.
Absolument.
Donc, ils ont aussi besoin d'eau. Donc, il faut peut-être
non.
pas qu'ils...
Ce sera du donnant-donnant. Ça va être une négociation où chacun a des atouts dans son jeu, qu'ils vont abattre au fur et à mesure. Vous avez aussi une forte pression, on le sait, sur l'industrie automobile allemande, qui veut absolument garder le Royaume-Uni comme un débouché majeur pour ses exportations de voitures.
Et aussi pour le patron de PSA, le président du conseil de surveillance,
absolument.
Le Gallois, le disait lundi en disant, nous, on a besoin, en plus, ils ont la filiale Vauxhallan qu'ils ont racheté, donc on a besoin de ce marché.
Mais
on voit quand même que la marge de négociation de Michel Barnier, elle est pas facile, hein, quand même.
Ses équipes le reconnaissent, Ça a été dur de négocier l'accord de divorce.
Ouais.
Ça va être encore plus dur de négocier les termes d'une nouvelle relation qui prendra vraisemblablement l'aspect d'un accord de libre-échange ad hoc, c'est-à-dire spécialement conçu pour la relation avec le Royaume-Uni.
Oui, parce qu'il va avoir du chantage de l'autre côté. On connaît la capacité de négociation de Boris Johnson. On l'a vu là sur le cas du divorce. Enfin, c'était extrêmement compliqué malgré tout. Enfin, vous qui connaissez un peu le dessous des cartes, c'était très très compliqué de.
Ça a été très compliqué. Et je veux dire, force est de reconnaître que la manière dont il a réussi à s'imposer, à gagner les élections, à faire passer le Brexit, tout ça en l'espace de quelques semaines, est absolument remarquable.
Ouais.
Donc ce sera un négociateur plus qu'ardu, mais comme vous le rappelez, je connais bien Michel Barnier, et on a toute raison d'avoir confiance en lui pour maintenir l'unité des 27 et arriver à un accord qui préserve l'intérêt des Européens continentaux, et notamment l'intégrité du marché unique.
Mais politiquement, qui pour tenir tête à Boris Johnson ?
Écoutez,
en Europe ? C'est ça un peu la difficulté, parce que quand je vous disais que psychologiquement, je ressors cette phrase formidable que nous a dit Dominique Mezy en disant pour l'instant, la dynamique, elle est du côté britannique, elle n'est pas du côté européen. À cause de Boris Johnson, de cette personnalité très flamboyante. Nous, notre côté, on a des gens très bien, mais c'est pas
dans
Boris Johnson.
Dans les faits, qu'est-ce qui va se passer sur la négociation ? C'est donc Michel Barnier qui est le chef de la task force en charge de ces négociations. Il a pour un interlocuteur un ministre du gouvernement britannique qui est chargé de cela. C'est là que ça va se passer. Ensuite, au chef d'État ou de gouvernement des 27, de faire en sorte qu'il renvoie la balle correctement à leur niveau à Boris Johnson. Mais il est clair que Boris Johnson, et je regardais encore ce matin une vidéo qu'il a postée il y a 2 jours pour expliquer aux Britanniques ce qu'est le Brexit. C'est vrai qu'elle est extrêmement claire, extrêmement limpide, totalement tournée à son avantage, totalement tournée à l'avantage des Britanniques et au futur du Royaume-Uni que leur vend Boris Johnson. c'est un politicien hors pair, certainement.
Ouais. Est-ce qu'on a un peu la trouille, quoi, à Bruxelles, justement, de ces négociations?
Non, absolument
parce que,
pas.
Parce que Boris Johnson est Boris Johnson, quoi.
Non, absolument pas. Et je vous répondrai, vous me dites Boris Johnson et Boris Johnson, je vous répondrai Michel Barnier et Michel Barnier.
Il ne s'agit pas de ça. Qui est Premier ministre, ce qui n'est pas le cas de Michel Barnier.
Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de faire en sorte que on négocie avec, pendant la durée qui s'imposera, un accord de libre-échange qui préservera le marché unique, les intérêts des Européens. Une nouvelle fois, la période qui est impartie pour le moment est vraisemblablement trop courte. Donc, il y aura des points de focalisation dans les semaines à venir que sont le commerce, les services financiers et la pêche. Le reste passera peut-être dans un deuxième temps. Mais j'ai toute confiance dans les équipes de la Commission européenne pour mener à bien cette négociation. Je le reconnais certes, cela ne sera pas facile.
Un mot, parce que vous êtes un expert de ces questions, alors je ne reviens pas sur le Conseil de sécurité, parce que vous nous avez alerté sur ce point-là, je pense que c'est un point important. Sur la coopération militaire, parce que la coopération militaire, elle est très forte entre la France et la Grande-Bretagne, surtout pour des opérations militaires, elle l'est beaucoup moins évidemment avec d'autres partenaires urbains. Comment est-ce que vous voyez justement cet aspect-là?
C'est un aspect en effet important, celui de la coopération en matière de sécurité et de défense. Il est vrai qu'au-delà de tout ce qu'on perd avec le départ du Royaume-Uni, la France perd aussi l'autre grande puissance militaire européenne. Mais tous les signaux qui viennent de Londres pour le moment laissent à penser que les Britanniques sont tout à fait disposés à poursuivre cette coopération. Par exemple, ils ont une aide logistique, par exemple, sur l'opération Barkhane, où nous avons 4500 Français dans le Sahel, pour lutter contre le fléau islamiste. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Donc les signaux qu'ils donnent sont tout à fait positifs et vont dans ce sens. Il y a un certain nombre d'enceintes formelles qu'ils vont devoir quitter, mais il y a nombre d'enceintes informelles où les Britanniques continueront à être présents et à marquer leur influence.
Ouais. Lorsque vous voyez les Polonais, qui eux sont au sein de l'Union européenne, qui ont donc choisi l'avion de combat américain et non pas l'avion de combat, la Eurofighter européen, voire le Rafale français. Qu'est-ce que vous dites ?
La préférence communautaire, c'est un vieux sujet. On peut pas non plus obliger, avec les instruments juridiques dont on dispose actuellement, les pays à acheter européen. Cela étant, c'est une question qui se pose, par exemple, en matière
Mais au-delà de l'obligation, ça montre bien quand même le poids des pays de l'Est, le poids américain sur les anciens pays de l'Est, enfin les pays de l'Est ou les anciens pays de l'Est par rapport à l'Union soviétique.
Il est clair qu'il y a une différence d'appréciation, notamment sur la menace soviétique, entre Européens. Il y a une fracture très claire entre l'Est et l'Ouest. C'est vrai qu'à l'Est, j'en reviens aux propos qu'avait tenu le président de la République sur l'OTAN, l'OTAN reste quelque chose de très important, les États-Unis restent quelque chose d'extrêmement important. Bon, ensuite, quand vous achetez des avions, c'est un marché de concurrence, vous regardez ce que font les Suédois, vous regardez ce que font les Français, vous regardez ce que font les Américains, et vous choisissez celui qui, financièrement, techniquement, budgétairement, correspond mieux à ce que vous souhaitez.
Ouais, ça, c'est une réponse de Normand. Merci beaucoup, Pierre-Jérôme Ménin, d'avoir été avec
nous. Merci à vous.
Toujours des décryptages forts, instructifs, présidence de Progressive Company. Merci beaucoup. Dans un instant, on verra l'aspect économique, justement, de ce transfert quotidien entre la France et la Grande-Bretagne. Je reçois le directeur général adjoint des douanes. Il va nous expliquer l'enjeu de ce 31 janvier, s'il y a un enjeu. Et puis, bien sûr, après le 31 décembre 2020. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Savez-vous combien de personnes transitent entre la France et la Grande-Bretagne ou l'inverse? Eh bien, c'est 30 millions de personnes. C'est dire si l'impact est important. Jean-Michel Tillier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général adjoint des douanes. Et pour vous, c'est un sacré enjeu, ce Brexit, pour le coup. Lorsqu'on regarde aussi les exportations et les importations, j'ai envie de dire, tiens, pour une fois, la France, on a un déficit commercial positif de 12 milliards. Si on essaie juste de voir un peu comment ça circule entre nous et les Britanniques. Puis après, vous nous direz les enjeux pour les douanes, notamment.
Bah, aujourd'hui, ça circule librement. Ça circulera d'ailleurs librement.
Mais combien, à quelle hauteur?
Aujourd'hui, c'est à peu près, rien que dans les Hauts-de-France, c'est à peu près 10 000 camions qui traversent la Manche, donc tous les jours. Ouais. Donc c'est une vingtaine de millions de camions tous les ans.
60 milliards d'euros de marchandises par année, donc c'est colossal.
C'est colossal, avec des secteurs qui sont beaucoup plus présents que d'autres, hein, aéronautique, l'automobile, chimie, pharmacie, un petit peu l'agroalimentaire. Donc qui sont les principaux secteurs, et donc qui sont les principaux secteurs qui sont exposés finalement aux changements qui seront induits par le Brexit une fois qu'il sera réellement mis en œuvre.
Oui, il y a 100 000 entreprises concernées selon vos chiffres, hein, les chiffres d'Edouard.
Oui, tout à fait. Alors il y en a 100 000, après il y en a qui ne font qu'une opération dans l'année, disons qu'il y en a 20 000 à 30 000 qui sont vraiment très 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 concernés.
Là encore, parce que je trouve que on mesure bien l'impact que c'est ce Brexit. Les produits industriels, l'agroalimentaire, l'exportation française vers la Grande-Bretagne, c'est 15%, l'automobile 12,2%, produits chimiques 8,7%. Est-ce que ça va complètement changer là? Alors comment est-ce que d'abord, vous vous préparez à demain?
Alors, on ne s'est pas préparé hier, on ne s'est même pas préparé avant-hier, c'était il y a 2 ans, on a commencé il y a 2 ans. On a essayé de chiffrer un petit peu les impacts sur pour la douane, mais surtout pour les flux, pour finalement offrir des solutions aux entreprises pour qu'elles puissent continuer à travailler de manière assez fluide. Donc, pour nous, ça a été des mesures, on a embauché du monde, on a revu...
Combien de douaniers? Parce que justement, il y a combien de douaniers?
Alors, il y a 17 000 douaniers.
Oui, mais là.
Au titre du Brexit, aujourd'hui, on en a recruté 600 et il reste 100 à recruter.
Mais combien qui sont concentrés entre la France et la Grande-Bretagne?
Les flux entre la France et la Grande-Bretagne, il y en a qui partent d'un petit peu partout en France. Si on prend simplement les Hauts-de-France, on a rajouté dans les Hauts-de-France 250 personnes.
Oui, d'accord. Donc et il y en a combien qui travaillent en valeur absolue? Il y en a combien de douaniers qui travaillent là-bas?
Ah, dans les Hauts-de-France, aujourd'hui, on doit être sur à peu près 1400, 1500 personnes.
Oui, d'accord.
Sur les Hauts-de-France.
On voit que c'est une frontière importante.
C'est la frontière la plus importante, ouais, de ce côté-là.
Comment est-ce que vous êtes préparé à faire quoi? Parce que on voit bien, ce qui est très important pour les entreprises, c'est la fluidité. C'est là où il y a des craintes en disant, si le camion, il doit s'arrêter à Calais et puis de l'autre côté aussi à Douvres, là, il y a un petit souci. Donc, c'est pas possible. Comment est-ce que vous allez assurer cette fluidité tout en respectant les termes du Brexit?
Ah, tout à fait. Je crois que c'est le premier objectif. C'est quand même respecter les termes du Brexit. Il y a un pays qui a fait un choix démocratique et donc il faut le respecter, le mettre en œuvre. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'abord de mettre du monde, parce qu'il y a une charge de travail qui va naître de toute façon du Brexit, puisqu'on va rétablir des formalités à la fin de la période de transition, donc aujourd'hui au 1er janvier 2021. C'est mettre de l'informatique et donc mettre de l'automatisation le plus possible. Et puis c'est surtout travailler avec les entreprises, donc exportatrices notamment, bien leur indiquer quels sont les impacts du Brexit, le fait qu'elles doivent se préparer. Et il y a eu un gros travail de fait aussi avec les gestionnaires de liens transmanche, donc les Eurotunnel, le port de Calais, enfin tous les ports de la Manche-Mer du Nord, avec les compagnies de ferry, pour que chacun des acteurs qui participent à la circulation, on va dire, des camions, joue son rôle et que finalement le franchissement de la frontière soit extrêmement rapide. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en tout cas sur la partie où c'est le plus étroit, on peut mettre en 30 minutes pour traverser par le tunnel, 45 minutes, 1 heure par les ferries, et que donc il y a très peu de temps en fait pour se préparer. C'est un peu la différence d'ailleurs avec les collègues belges ou néerlandais qui ont beaucoup plus de temps finalement qui est passé sur le bateau. Donc nous, on a très peu de temps. On a des endroits qui n'ont pas été prévus pour réaliser des formalités. Il a fallu faire des adaptations. On a aidé les entreprises pour cela. Mais le but, c'était d'automatiser le plus possible donc les opérations.
Ils seront automatisés, c'est ça, c'est-à-dire mais ils seront fouillés avant les camions? Comment ça va? Là, il y aura une espèce d'aléatoire?
La grosse différence qu'introduit le Brexit, c'est l'arrivée de formalités. C'est-à-dire que quand vous envoyez ou quand vous recevez une marchandise du Royaume-Uni, il faut réaliser une formalité douanière. Il peut y avoir des formalités sanitaires. Des contrôles, il y en a. Ils sont ciblés. Ils peuvent être aléatoires également, mais ils sont ciblés. Donc, on a des outils. Ça fait partie de nos méthodes de travail classiques. Donc, on va les appliquer aussi, évidemment, aux flux qui viennent du Royaume-Uni. Mais donc, ça ne porte que sur une petite partie donc des flux du Royaume-Uni.
Est-ce que, parce que vous, à la limite, de votre côté... Enfin, j'en sais rien, peut-être. J'allais dire, c'est peut-être du côté français, européen, on va jouer la fluidité. Mais est-ce que les douaniers britanniques vont avoir la même attitude? Puis après tout, peut-être que non, c'est l'inverse. C'est peut-être les douaniers français qui vont dire, bah, vous avez choisi de partir, bah, maintenant ça va être compliqué de revenir, de rentrer sur notre territoire. Donc je ne sais pas.
Il y a une différence fondamentale entre les douaniers britanniques et les douaniers français, c'est pas la nationalité. Les douaniers britanniques appliqueront la législation que les Britanniques vont mettre au point, qui ne sera plus la législation communautaire. Nous, Français, on garde la frontière européenne et on travaille, en fait, pour le compte de l'Union européenne. Hein, c'est ça. On garde la frontière européenne.
Vous êtes tatillon, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez les douanes, on a tous passé les douanes. Vous pouvez passer 3 heures comme vous pouvez passer 30 secondes.
Non, vous savez, notre délai de dédouanement pour la douane française sur l'ensemble du territoire, c'est environ 3 minutes. Donc, l'image tatillon, elle est quand même largement dépassée.
Peut-être que là, il y aurait peut-être la volonté, mais je sais pas, moi, de l'Union européenne, de faire du zèle. Juste pour montrer, pour signifier vous voyez, je veux dire, qu'il y a une sorte de mauvaise humeur, on va dire ça comme ça.
Non, il y a un point sur lequel on sera très attentif et la façon dont les négociations ont été conduites l'a montré. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le level playing field. C'est le fait, en fait, que de l'autre côté, le Royaume-Uni va appliquer des systèmes de normes, notamment, qui seront proches, voire identiques au système communautaire. Et le but, ça, c'est bien de protéger le marché intérieur, le marché unique. Et donc là, nos contrôles vont beaucoup viser, au-delà de la perception des droits et taxes, hein, ils vont surtout viser, en fait, à garantir un peu à préserver ce marché unique.
Qu'est-ce que vous redoutez, en fait, Jean-Michel Tillier, en tant que patron des douanes? Qu'est-ce que vous redoutez?
Aujourd'hui, ce qu'on redoute, c'est le manque de préparation des entreprises, avec les difficultés que ça pourrait créer au niveau de la frontière, donc avec des possibilités quand même de ralentissement au niveau de la frontière. Donc c'est pour ça que les 10 mois qui nous séparent de la fin de l'année vont être beaucoup orientés sur l'information des entreprises.
Alors vous êtes sur BFM Business, et effectivement il y a beaucoup de chefs d'entreprise, enfin de gens qui travaillent dans le privé qui vous écoutent. Si vous aviez un ou deux conseils à faire passer, ça serait quoi?
Je m'adresse notamment aux entreprises qui ne sont pas habituées à travailler vers des pays tiers, donc au grand international. Donc là,
Il y en a beaucoup.
Oui, c'est la majorité. Hein,
oui, de toute façon. Hein,
donc là, ces entreprises, elles vont découvrir des formalités douanières, ce qu'elles ne faisaient pas auparavant. Mmh. Elles vont devoir travailler avec des prestataires qu'elles ne connaissaient pas, les commissionnaires en douane. Donc, il va peut-être falloir qu'elles revoient un petit peu leur schéma logistique. Donc voilà, il y a tout ça à penser. La facturation est à penser. La valeur en douane, ça n'est pas une valeur pour le fisc. Il y a l'origine des marchandises aussi. C'est un point qui est important, surtout si elle travaille avec d'autres pays tiers. Il va falloir revoir l'origine des marchandises, surtout si vous faites fabriquer une partie de votre production sur le Royaume-Uni. Est-ce que finalement ce qu'aura apporté l'ouvraison au Royaume-Uni aura modifié ou pas l'origine de ma marchandise? Et quand on va à l'export dans des pays qui sont liés par un accord de libre-échange avec l'Union Européenne, c'est pas indifférent de pouvoir affirmer que ma marchandise est d'origine communautaire et donc accéder donc à des droits réduits ou des droits nuls.
Est-ce qu'il y aura... Alors là, ça ne vous regarde pas, parce que vous êtes patron des douanes françaises, mais est-ce que vous savez un peu comment ça va se passer entre la frontière britannique et la frontière irlandaise?
Alors,
est-ce qu'on va être tatillon là encore? On va faire du zèle là aussi? Parce que c'est le fameux backstop, enfin tout ce qui a été négocié.
Backstop,
non, il n'y a plus de backstop, plus. Absolument. Mais
alors, on ne sait pas. C'est un petit peu une des inconnues. Il y a eu une volonté politique de ne pas réintroduire de frontières, enfin physiques, sens physique,
là, hein,
entre les deux Irlandes. Donc, ce qui va être particulièrement sensible, c'est les flux entre on va dire l'Angleterre et puis l'Irlande du Nord. Et c'est là que les autorités douanières britanniques ont une responsabilité particulière pour que les marchandises, une fois qu'elles sont en Irlande du Nord, comme on aura des formalités qui seront ultra simplifiées entre l'Irlande du Nord et puis la République d'Irlande, qu'on n'ait pas des marchandises qui basculent finalement dans le marché unique sans respecter les normes ou sans avoir acquitté de fiscalité. Mais là, il y a un dispositif qui est prévu et qui doit être négocié d'ailleurs, et qui permettra aux États membres et à la Commission de quelque part contrôler, en tout cas superviser l'étendue des contrôles britanniques.
Et est-ce que vous redoutez un détournement justement du commerce international, parce que désormais il sera international, entre, au lieu de passer peut-être par la France, c'est de passer par l'Irlande pour en pouvoir rentrer ensuite dans la Grande-Bretagne, ou inversement?
Je crois pas trop.
Ça sera plus facile. Voilà.
Je pense que quand il y a des conditions qui, du commerce international qui changent, une organisation de fraude, quelle qu'elle soit, elle va regarder de quelle façon elle peut utiliser cette modification. Mmh. Donc nous, on a déjà commencé à travailler, alors même que le Brexit n'est pas encore là, on a commencé à travailler et à analyser un petit peu les risques de détournement de trafic pour adapter justement nos critères de ciblage et finalement cibler en termes de contrôle physique ou documentaire les envois qui seront les plus sensibles. Donc c'est quelque chose qu'on a bien pris en compte.
D'accord. Et puis vous nous dites, votre conclusion, mais vous avez même commencé par ça, vous êtes prêts, la douane française, elle est prête.
Nous étions prêts pour les échéances précédentes et nous serons encore plus prêts pour la prochaine.
Voilà, il manque encore 100 douaniers, hein. On a retenu.
Tout à fait.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Jean-Michel Tillier, donc directeur général adjoint des douanes. Dans un instant, c'est Elena Sicurel, députée européenne Renaissance, justement, membre du bureau exécutif de La République En Marche. Et puis après, Bettina Laville, la présidente du comité 21, qui sera avec nous.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invitée, c'est Elena Sicurel, députée européenne Renaissance. En fait, elle sera vraiment députée que le 10 février prochain. Elena Sicurel, merci d'être avec nous.
Merci pour cette invitation.
Vous allez donc quitter Paris, peut-être un peu avec ces miasmes politiques difficiles, parce que vous êtes aussi, du reste, membre du bureau exécutif La République En Marche.
Absolument.
Lorsque vous voyez, pardon cette expression, mais le bordel à l'Assemblée nationale dans votre groupe, les exclusions, la présidente de la Commission des Affaires européennes qui ne veut pas démissionner, donc on la vire, à Paris avec Cédric Villani, qui fait quand même un petit pied de nez au président de la République en disant bah « Non, je me maintiens. Qu'est-ce qui se passe ?»
Écoutez, moi, je ne suis pas inquiète parce que je pense qu'on garde quand même une majorité solide. Mmh. Évidemment, c'est jamais de gaieté de cœur qu'on assiste à ça. Moi, Cédric Villani, c'est quelqu'un que je connais personnellement, que j'estime, lequel j'ai beaucoup d'amitié. Donc, moi, j'ai envie de vous dire que mon espoir, c'est que c'est une péripétie, le concernant en tout cas. Mais il y a des moments où il faut aussi avoir un minimum de loyauté et de discipline. C'était aller trop loin. Et moi, ce qui m'a beaucoup déçu, si vous voulez, pour Cédric Villani, c'est qu'à un moment donné, il imaginait des alliances avec tout le monde, sauf avec nous. Donc ça devenait vraiment incompréhensible. Et bon, je pense qu'on ne pouvait pas éviter d'en arriver là. Mais on va voir ce que nous dira l'avenir. Vous savez, il y a le municipal. Il y a le national et l'européen.
Oui, il y a les municipales, c'est peut-être là où ça se cristallise, parce qu'on voit qu'il y a quand même une politique qui est considérée par certains plutôt à droite, parce que ceux qui sont exclus sont plutôt des gens qui viennent de la gauche au sein de La République En Marche. Donc, est-ce qu'on n'est pas un peu en train de tordre ce qu'est au départ le projet politique du président ?
Alors moi, je suis heureuse que vous me posiez cette question, parce que je suis absolument opposée à cette lecture qui est faite, et à mon avis qui est peut-être suscitée par certains qui ont intérêt, d'une espèce de lecture d'une droitisation du groupe parlementaire. Je crois que ça n'a absolument rien à voir avec ça. Moi, personnellement, je suis assez fière d'être la nièce de Pierre Mendès France et je m'inscris dans cette lignée. Hein. C'est pas parce qu'on est en famille qu'on est d'accord, mais pour le coup, je me sens porteuse d'un héritage politique qui se situe plutôt à gauche, hein, et je me reconnais totalement dans le projet d'Emmanuel Macron, et on va en parler à travers l'Europe, et je pense que cette lecture là c'est le naturel qui revient au galop. C'est des questions de personnes et d'ego et pas de vrais clivages politiques. Je n'y vois vraiment et très sincèrement aucune espèce de signification politique. Je pense que c'est des parcours individuels et les municipales, malheureusement, ça laisse parfois parler un peu trop les égos.
C'est intéressant, juste toute dernière question là-dessus, on parlera d'Europe, parce que là, on sent que vous êtes tellement content de partir en Europe, ou quelque part, ça vous fait du bien de quitter la politique parisienne, voire nationale. Mais comme vous venez de souligner que vous étiez la nièce de Pierre Mendès France, en même temps, j'espère que sur le plan politique, vous ne souhaitez pas la même fin à Emmanuel Macron, parce que Pierre Mendès France, il a réformé la France, ça a été difficile, il a laissé son nom dans l'histoire de France, mais sur le plan politique, il a été en fonction qu'assez peu de temps.
Oui, alors il a laissé
je ne sais pas si vous souhaitez un sort pareil à Emmanuel Macron. Non,
il a laissé un héritage, et moi je crois qu'il a laissé une éthique qui est de dire la vérité aux Français, et ça, je crois que ça fait partie de notre éthique politique commun.
Il l'a payé cher, il était
L'histoire ne se répète pas, vous le savez.
Ouais, voilà, d'accord, jolie pirouette. L'Europe, visiblement, vous êtes très très contente d'aller là-bas, député. Ça va pas être simple quand même. On en parle beaucoup parce qu'évidemment, on est à J-1 du Brexit. C'est demain, même si on voit bien que ça change pas tout de suite quelque chose. Mais vous avez envie de changer. Qu'est-ce que vous avez envie de changer? Vous êtes en charge de l'éducation pour l'instant dans le bureau exécutif à Paris. Vous avez envie de donner un projet européen aux jeunes français pour leur donner envie d'être européen?
Alors complètement. Et j'ai envie d'abord de répondre que j'y vais avec un sentiment de responsabilité, c'est sûr, très lourd, parce que cette mandature, elle est importante. On doit convaincre les Français et les Européens de l'utilité de l'Europe. Un sentiment aussi de fierté, parce que c'est difficile, mais les choses sont en train de changer. On n'en parle pas assez, et merci de m'inviter pour en parler, et j'espère qu'on en parlera bien au-delà du Brexit. Les règles ont changé en Europe. Et moi, je suis assez fière de retrouver la délégation Renaissance, qui est la délégation française au sein du nouveau groupe Renew Europe, qui a totalement changé le fonctionnement. On avait avant un système qui était bloqué avec les sociaux-démocrates et le parti populaire européen. Et là, on a. Alors, je vous donnerai quand même. Je vous vois sceptique, mais, non, mais on a déjà des grandes avancées.
On a eu des péripéties oui. de nomination. Est-ce que c'est Ursula? Est-ce que c'est Christine? Est-ce que c'est l'allemand? Bref, vous voyez ce que je veux dire. Ça a été. Je ne sais pas si ça a été une grande révolution.
Bah, écoutez, en tout cas, il y a déjà un bilan que je trouve assez intéressant. On en parle peut-être pas assez, mais il y a le Green Deal qui est en train d'avancer avec une banque européenne pour le climat, hein, qui est, on l'avait annoncé, elle existe. Il y a le pacte Simone Veil qui vient d'être adopté, hein, qui est un pacte sur le droit des femmes avec l'idée de tirer vers le haut le droit des femmes sur toute l'Europe. Et quelque chose qui est extrêmement important, qui est la conférence sur l'avenir de l'Europe. C'est un projet qui a été porté par le président de la République et par notre liste Renaissance et qui est très importante. C'est pendant 2 ans, on va faire un peu sur le modèle de ce qu'on fait ici, la Convention citoyenne sur la transition écologique.
Oui, on en parlera dans un instant.
Bien, cette conférence, elle est essentielle. Et je crois qu'elle montre aussi qu'on n'est pas des Eurobéas. Hein, c'est-à-dire, je crois
des
que le Brexit.
Eurobéas.
Voilà, on n'est pas des Eurobéas, on est des Européens convaincus. Mais le Brexit est une douleur pour tout Européen qui se respecte. Et puis pour moi, c'est quelque chose de difficile d'entrer au moment où nos amis anglais sortent. Mais en même temps, c'est un avertissement. Un avertissement que l'Europe n'est pas éternelle.
Hein. Il faut donner envie.
Cette mandature avec cette conférence, qui est une conférence de refondation, qui va faire participer les citoyens européens, qui va revoir les modes de gouvernance en se disant on va arrêter d'être bloqué dans l'unanimité, par exemple, sur certains chantiers. On peut avancer.
C'est le premier chantier, c'est-à-dire l'unanimité sur le plan fiscal, notamment, parce que c'est là où tout est bloqué, on le sait bien. Est-ce que c'est la priorité de la liste Renaissance?
C'est une des priorités, certainement. Il y a aussi l'Europe écologique. Il y a aussi avoir une vraie politique industrielle, revoir les règles de concurrence, hein, qui ont tendance à être un peu, je dirais, dans l'angélisme, hein, où l'Europe a trop souvent accueilli les concurrents sans demander une réciprocité, hein, avec la Chine, avec les États-Unis. Donc tout ça, c'est difficile. On a beaucoup de chantiers, hein, c'est difficile de les classer entre eux. Mais vous parlez d'éducation, c'est évident que pour moi, c'est un point très important, éducation et formation.
Évidemment, c'est en train de se décider, donc vous n'allez pas me donner une réponse définitive, mais a priori, vous allez siéger dans quelle commission
Alors, je vais avoir en fait un pied dans deux commissions, un pied évidemment dans la culture et l'éducation, qui est évidemment l'une de mes priorités. Mais ça vous étonnera peut-être, je vais aussi siéger et comme titulaire, je l'espère en tout cas, ce sera peut-être confirmé. Donc j'espère dans les jours qui viennent, dans la commission emploi. Et la commission emploi, en fait, c'est une commission qui s'occupe de tout ce qui est question sociale. Ouais. Et je pense que c'est très important parce que nous sommes en Europe. Porteur d'un modèle qui est à la fois un modèle compatible avec la liberté de marché, mais qui porte aussi, je pense surtout en fait à la protection de la personne humaine, parce que on le sait et ça je pense que c'est une conviction qu'on partage. On a aujourd'hui dans la nouvelle mondialisation telle qu'elle se présente deux grands géants qui sont la Chine et les États-Unis. Ouais. Si l'Europe veut peser, elle doit devenir une puissance économique et je dis bien elle doit devenir parce que je crois qu'il y a du travail et de la détermination politique qui est nécessaire et il faut se dépêcher.
Qui a envie de se faire l'Europe, hein, pour parler crûment.
Il faut se dépêcher et pour compter, il n'y a que le cadre européen qui est possible. Mais nous sommes porteurs de ce qu'on pourrait appeler une démocratie sociale et éco-responsable, c'est-à-dire qui, comme je disais, combine la liberté de marché et le respect de la personne. Ouais. Et je crois que ça, c'est très important. C'est le respect de la vie privée, c'est le respect des droits sociaux.
Ouais. Est-ce que vous pensez que le modèle social français, il a été réformé en partie, mais il reste quand même un modèle qui fait notre lien social, mais qui est très différent ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut un peu affirmer au niveau européen?
Mais je crois qu'on en prend la voie, et je crois que quand on parle d'un salaire minimum, d'un salaire décent, qui aura aussi pour traduction d'éviter que cette mobilité européenne, qui peut être très positive, ne devienne pas un dumping social où en fait le moins protecteur des droits sociaux peut faire une concurrence déloyale aux autres pays européens. Donc je crois que une des grandes victoires de la mandature précédente, ça a été la directive travailleur détaché, hein, à travail égal, salaire égal, et on est en train, comme vous le savez, de compléter, de faire l'acte 2 de cette directive pour qu'il y ait aussi une équivalence du coût social. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes. Mais je crois que l'heure est venue, en fait, oui, de mettre plus de social en Europe, dans une Europe qui est trop souvent considérée comme purement libérale. Ça n'est pas le projet européen.
Oui, enfin, ça, alors vous me direz, au moins il y aura moins la pression des Anglais, qui étaient eux plus libéraux, donc peut-être on peut peut-être retrouver un modèle social-démocrate. En tous les cas, ça va être votre enjeu, Ilana Sicurel.
Oui, puis j'aimerais conclure. Vous avez parlé de, c'est mon enjeu, et moi j'aimerais, vous avez parlé des jeunes. Moi, je crois que ça va se jouer sur les jeunes.
Bien sûr.
Vous trouvez chez les jeunes les plus enthousiastes pour l'Europe et les plus sceptiques, et souvent les plus sceptiques, c'est ceux qui se sentent en marge de la mondialisation de la
nouvelle
réussite.
Version d'Erasmus, c'est ça
que
vous trouvez.
Alors évidemment, nouvelle version d'Erasmus. Avec les apprentis qui pourront en profiter et toute la jeunesse populaire, avec une manière de faire en sorte que c'est zéro coût pour les familles. Mais j'ai envie de vous parler d'autre chose, qui est la garantie jeunesse, qu'on connaît moins, qui fait qu'un jeune Européen, quand pendant 4 mois il est au chômage, eh bien, il a un droit à une formation, à un premier emploi ou à un stage. On veut le renforcer et on travaille même sur une clause équivalente pour l'enfant. Qu'est-ce qu'on peut promettre à l'enfant européen depuis sa naissance jusqu'à l'âge adulte? Donc, moi, j'ai envie de préparer l'avenir avec un volontarisme et un enthousiasme, et c'est ça que j'ai envie d'envoyer comme message, surtout aux jeunes Européens aujourd'hui.
Bah, en tous les cas, ça va, vous avez une bonne pêche, Ilana Sicurel. Toute dernière question, si on vous dit, tiens, il faut faire des économies, on est d'accord, tout le monde est d'accord, pour investir sur les jeunes, la technologie, faut fermer Strasbourg.
Alors,
le Parlement à Strasbourg est une espèce de navette qui coûte cher. Alors d'accord, c'est important pour la France, on comprend très bien, mais en même temps, ça coûte cher.
Alors moi, je vais vous répondre un peu par une pirouette, mais quelque chose d'important,
pas trop,
c'est que certainement pas d'économie sur l'éducation. Et Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation et de la Jeunesse, porte un très beau projet inspiré par Jacques Attali. L'idée que tout ce que l'éducation, ce n'est pas un coût, c'est un investissement.
Oui,
donc les économies, sûrement pas sur les...
Oui, non, d'accord, mais je parle du Parlement de Strasbourg. Allez-y, répondez quand même.
Oh, vous savez quoi, on en reparlera. Vous me réinviterez, on en reparlera.
Ouais,
il faut
d'accord.
Un petit peu de vécu pour vous répondre.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, donc, bonne chance à Bruxelles pour faire bouger les choses. Ilana Sicurel était notre invitée. Dans un instant, c'est Bettina Lavie, la présidente du Comité 21. Justement, elle, le Green Deal, elle connaît. Elle a négocié les accords de Rio, la COP 21. Et elle publie un rapport aujourd'hui qu'elle va remettre, notamment à la Convention citoyenne.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Bettina Lavie, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, président du comité 21. On va rappeler, et faut-il le rappeler, mais enfin quand même, vous avez négocié les accords de Rio pour la France, et puis vous avez largement participé à la COP 21. Et là, à l'occasion aujourd'hui, il y a un sommet qui s'appelle le Change Now Summit. Vous remettez un rapport sur la grande transformation, un rapport que vous avez écrit en tant que président de du comité 21, avec Philippe de Sertine, qui est le directeur de l'Institut de Haute Finance, et que vous allez aussi remettre à la Convention citoyenne, parce qu'on peut remettre des rapports à cette convention citoyenne.
Alors, on va d'abord remettre ce rapport à nos adhérents,
puisque
le comité de prospective y a travaillé depuis 2 ans et est composé de spécialistes, et on va effectivement l'adresser à la convention citoyenne, puisque nous avons, ils ont auditionné beaucoup d'experts, mais que ce que je trouve, si vous voulez, c'est qu'il faut leur donner un document qui fasse un petit peu le survol de tout ce qui peut être véritablement transformé. Parce que le départ de la Convention citoyenne, c'était évidemment l'affaire de la taxe carbone. Je crois qu'au fur et à mesure des auditions, on s'en est parfaitement rendu compte lors du dialogue avec le président de la République en particulier, ils essayent de voir beaucoup d'autres solutions. Et nous, le message que nous envoyons, c'est que nous n'en sommes plus à la transition. L'urgence est telle que nous sommes à la transformation. On reprend évidemment le mot de Polanyi qu'on connaît bien. Et là-dessus, on donne des pistes pour vraiment changer de modèle.
La Convention citoyenne, vous qui avez négocié toutes ces grandes messes, est-ce que ça sert à quelque chose ou là on est complètement dans la politique ?
Alors, moi je pense que ça sert... Alors, d'abord, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas la première.
Donc les citoyens tirent au sort.
Il y en a eu une en 98 en particulier. Enfin bon.
Ils étaient tirés au sort ? Les membres de cette convention citoyenne
Ils étaient tirés au sort, peut-être avec moins d'exactitude que maintenant, parce que tout a progressé, mais ils étaient, c'était à peu près la même chose. Deuxièmement, moi je pense que c'est utile, parce que ça donne une photographie de ce que pensent des gens qui ne sont pas du tout spécialistes. Et là, en fait, aujourd'hui, comme il y a une espèce de fatigue des experts, peut-être un peu à tort d'ailleurs, on a une photographie de gens. Donc c'est parfaitement utile. D'abord, c'est extraordinairement utile pour eux, parce qu'on voit bien qu'à chaque fois qu'ils sont interviewés, ils disent « Mon Dieu, comme nous apprenons de choses !» Et deuxièmement, eh bien, ça fait des petits, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'ils parlent autour d'eux, etc. Deuxièmement, la médiatisation de cette affaire et le site fait que les gens apprennent aussi des choses à propos de cette convention. Le fait que le président de la République y soit allé montre effectivement l'intérêt de cela, l'importance, le poids, et donc c'est utile. Mais bien entendu, c'est une chose parmi d'autres. Voilà. Et il y a tellement aujourd'hui, vous savez, il y a un auteur qui a parlé des révolutions minuscules. Il y a tellement de révolutions minuscules partout. Et c'est pour ça que nous, dans le rapport, nous parlons de la force transformatrice des territoires. Et que d'ailleurs nous disons...
C'est ça qui est intéressant dans votre rapport. C'est pour ça que je vous ai demandé d'être là. Parce que c'est vrai qu'il y a 150 000 rapports, Bettina Laville. Mais moi, je crois beaucoup au fait que ça commence chez les gens. Ça commence donc dans leur maison. Ça commence dans leur commune. Ça commence dans leur département. Dans les régions, etc. Ça part du bas, quoi. Ça part pas forcément du haut.
Alors, c'est l'intérêt du comité 21, si vous voulez, parce que nous avons un collège territoire et nous avons des régions et des villes membres. Donc, nous sommes inspirés de leurs expériences là-dessus. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est que tous ces... Vous savez, à Rio, il y avait la fameuse formule du global au local et du local au global.
Oui,
on voit bien que les conférences, maintenant, les conférences internationales, ça s'épuise un peu. Il y a une force aujourd'hui des territoires locaux et de tous les territoires locaux. Alors, nous avons ouvert il y a un an un cinquième collège citoyen. Et donc nous faisons dialoguer tout le monde, et c'est ça donc l'intérêt de notre comité. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que tout ça doit être mis totalement en réseau. Je veux dire, on est aujourd'hui dans une société où on a l'impression, évidemment à cause beaucoup de la médiatisation, c'est normal, que les gens s'opposent. Mais les gens travaillent beaucoup plus ensemble qu'ils ne s'opposent. Et c'est pour ça que nous proposons des choses très concrètes, par exemple cette société de bien commun. Aujourd'hui, finalement, il y a une espèce de méfiance, moi je le regrette comme juriste, mais sur l'intérêt général, qui est pourtant le socle de notre constitution. Oui. Mais la notion de bien commun emporte beaucoup plus les gens. Et nous proposons des sociétés de bien commun pour que, si vous voulez, le secteur privé et le secteur public puissent travailler ensemble au niveau local.
Ça s'appelle des partenariats public-privé, et ça, c'est un espèce de chiffon rouge en France quand vous en parlez. Hein.
Non, parce qu'il y a des partenariats, mais il n'y a pas l'acceptation d'une société. Et c'est ça, l'innovation.
Moi, je voudrais d'abord peut-être insister, Bettina Laville, sur les grands freins, parce que vous commencez justement avec Philippe de Sertine en disant, quels sont les freins à cette transition écologique ? Est-ce que c'est l'absence, comme vous dites, d'information, d'éducation ? À quoi c'est dû ce frein, la peur du lendemain, quoi ?
Nous avons identifié de très nombreux freins, je vais en citer quatre en fait, particuliers. Premièrement, peut-être d'ailleurs, et s'attacher au mot simplement de transition, il faut une masse d'investissement, elle n'est pas suffisante. Il y a eu des progrès, le gouvernement en 2007, après le fameux rapport sous Sarkozy d'ailleurs, Ricard-Juppé, eh bien, il y a eu toutes sortes de progrès. Mais ce n'est pas assez. Vous savez, pour que la transformation soit réelle sur notre modèle économique, il faut investir tous les ans 3% du PIB. Voilà.
Oui.
Et donc c'est considérable. Mais c'est vraiment et ça pour ça vous venez de parler du Green New Deal. Je pense que c'est tout à fait important. Ça c'est le levier, un des leviers. Le deuxième levier c'est vraiment les territoires, hein, c'est-à-dire écouter les territoires, identifier toutes les initiatives. La région Aquitaine a fait quelque chose de très intéressant dans un récent document pour justement emmener tout le monde. Il y a aussi des techniques en fait qui ne sont pas assez appuyées. L'intelligence artificielle, par exemple, dont on nous dit « Ah, mais c'est épouvantable, c'est extraordinairement lourd en émissions de carbone », ce qui est vrai, sauf qu'il y a des moyens aussi de faire autrement, il faut s'investir. Mais c'est un instrument d'accélération tout à fait fabuleux pour la transition écologique, celle des bâtiments, celle de l'adaptation au changement climatique. Parce que tout simplement, avec cet instrument, on va beaucoup plus vite. Or, il faut aller vite, parce que malheureusement, la dégradation de la Terre va très vite.
N'attends
et
pas.
Moi, j'ai un autre frein auquel je tiens beaucoup, c'est le frein psychique, qui est de plus en plus étudié en ce moment. Les choses, finalement, sont tellement effrayantes qu'il y a une paralysie. Et moi, je suis très inquiète, mais résolument non collapsologue. Parce que la collapsologie, c'est la paralysie.
Mmh.
Voilà. Le fait de dire, ah mais mon Dieu, finalement, c'est l'apocalypse. Hein, c'est tout juste si maintenant, il faudrait accepter... Enfin, il y a des jeunes qui se demandent s'ils doivent faire des enfants, je veux dire. Bon, ça, je suis profondément...
Alors attention, vous me faites penser à Donald Trump à Davos, là, qui est... Donc, lorsque j'étais l'écouter, on voyait avec Greta Thunberg qui la regardait et il a dit mais non, pas, il faut arrêter avec ces prophéties de malheur qui sont portées.
Alors, c'est quand même la première fois qu'on me compare à Donald Trump.
Oui, non, mais je sais, je suis un peu provoque.
Je ne sais absolument pas comment je vais me relever de ça après votre émission. Non, ce que je crois,
plus sérieusement,
si vous voulez, mais d'ailleurs c'est le génie de Donald Trump d'employer de bons arguments de manière assez perverse pour les retourner. Non, ce que je crois, c'est que sauver la planète, c'est sauver la vie. Et ce n'est pas en niant la vie, en fait, qu'on la sauve. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très important. C'est pour ça que notre rapport, c'est un rapport de propositions et d'espoir.
Si vous aviez deux propositions faciles à appliquer, là, comme ça, tout
alors,
de suite, qu'est-ce que vous diriez ?
Alors, moi, premièrement, j'ai une proposition à laquelle je tiens énormément. C'est que nous devons faire une grande loi d'économie qui s'appellerait la loi d'économie de fonctionnalité. Vous voyez, aujourd'hui, est adoptée définitivement la loi sur l'économie circulaire.
Oui.
C'est très bien, et ce n'est pas suffisant.
Non.
L'économie de fonctionnalité, c'est vraiment justement l'économie de transformation. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, nous tenons beaucoup, c'est, vous savez, le social et l'écologique. On va parler aujourd'hui, dans les mois qui viennent, du revenu minimum. C'est une proposition du président de la République. Et nous voulons le transformer en revenu minimum vital parce que nous devons habituer tous les gens à considérer les évolutions en matière de la planète et à les prendre en considération. Donc il faut revoir la conception du vital par rapport à une planète qui change.
Merci beaucoup. Ce rapport disponible sur le site du Comité 21.
Sur le site du Comité 21 et il paraîtra prochainement en livre.
Merci beaucoup Bettina Laville, présidente de la Comité 21, d'avoir été notre invitée. Un mot pour conclure quand même. Je voudrais partager avec vous mon émotion, ma fierté. Thomas Asportas quitte le RH. Vous savez, c'est lui qui pendant presque 5 ans a préparé cette émission, anticipé ce qu'il fallait avoir pour les meilleurs invités. Et donc, je voulais lui tirer mon chapeau. Le succès de le RH lui est largement imputable. Il part pour de nouvelles fonctions. Ne vous inquiétez pas au sein de BFM Business puisqu'il va couvrir un point très important. Il va devenir reporter pour tout ce qui concerne la macroéconomie, c'est dire si là aussi l'enjeu est de taille. Voilà, comme ça c'est dit, nous on se retrouve quand même lundi, le RH bien sûr, et puis dimanche dans BFM Politique, notre invitée sera Marine Le Pen. Bonne journée.